Bonjour à tous. Comme un lundi, sourire à l'idée de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Puis vous présenter le dernier ouvrage d'un magistrat qu'on ne vous présente plus sur France Culture, Antoine Garapon, qui officie désormais chaque jeudi dans les discussions du soir. Magistrat dit intello parce qu'il a quitté les tribunaux pour réfléchir à une institution qu'il n'a cessé de servir. Secrétaire général depuis 91 de l'Institut des Hautes Études sur la Justice, Antoine Garapon publie Démocratie sous stress aux éditions PUF. Et il sera avec nous dans la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55 pour en parler. Mais d'abord, vous parlez justement d'une petite merveille du genre, Ma vie de courgette. Ce film d'animation franco-suisse a fait sensation à Cannes, premier long métrage de Claude Barraz qui a demandé à Céline Sciamma d'en écrire le scénario. Ils sont tous les deux les invités de la première partie de la Grande Table. La Grande Table qui se tweet, se like sur les réseaux sociaux, s'écoute et se télécharge sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Elle était gentille avec toi, ta maman?
Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée.
Bon, il est où ton papa?
Là.
Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman.
Je vous présente votre nouveau camarade, Icar.
Il préfère qu'on l'appelle courgette.
Moi, je dirais plutôt patate, vu sa tête.
6 mois, ça suffit.
Je rentrais chez moi avec ma maman.
C'est impossible, courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel.
Hé, lâche ça!
Trop balèze, courgette.
On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer.
Une partition sans fausse note, dit du film Gilles Paris, dont le roman autobiographie d'une courgette a inspiré Ma vie de courgette. Premier long métrage pour Claude Barraz, qui s'était déjà illustré dans Le Cours, Fantasmagorie, Stigmate en 2D, puis Le génie de la boîte de ravioli, Sainte-Barbe ou encore Au pays des têtes. Réalisé cette fois avec le concours de Céline Sciamma, réalisatrice de Tomboy comme de Bande de filles, et qui s'initie le scénario de Ma vie de courgette. Une perle de cinéma, un retour en enfance, un film consolation où l'amitié et l'amour aussi, l'ingéniosité arriverait presque à nous faire oublier que la vie n'est pas rose tous les jours, pour ses enfants en tout cas. Après avoir emballé la croisette, Angoulême et le festival d'Annecy, le film arrive dans les salles ce mercredi. Bonjour Céline Sciamma.
Bonjour.
Et bonjour Claude Barraz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Et vous avez apporté Courgette, Camille et Simon, trois des orphelins, sauf pour Simon qui a encore ses parents, mais ils sont en prison. En tout cas son père, vous les avez apportés avec vous. C'est les vrais ?
Et oui, c'est les vraies marionnettes du film. Il en reste quelques-unes qui m'accompagnent et les autres sont au musée de la miniature et du cinéma à Lyon pour une exposition du film.
Et alors justement, Claude Barraz, Courgette n'est pas en pâte à modeler, ni en sable, ni en papier, ni en 3D. Courgette est une marionnette mais sans fil.
Oui, une marionnette qui tient par les pieds. On les visse sur le sol pour pouvoir les animer sans qu'elles bougent dans tous les sens. Et il y a du tissu, il y a du silicone, il y a une armature métallique et des éléments aimantés sur le visage pour faire l'animation.
Et là, on a tout de suite les mains dans la tambouille de savoir comment ça fonctionne. Parce que c'est pas un film en 2D ni en 3D, c'est un film d'animation en stop motion, faut-il dire. Comment ça marche, le stop motion? Ça veut dire que vous faites, pour chaque image, bouger, vous changez un tout petit détail de la posture, de la position des marionnettes que vous avez en main.
Voilà, en fait, quand on voit le film, on voit bouger très naturellement ces personnages, mais ils ont été vraiment animés image par image, donc on prend 12 photos pour faire une seconde de film et donc entre chaque image l'animateur ajuste les yeux, enfin fait bouger l'entièreté de la marionnette à chaque fois et ensuite quand on passe à 24 images par seconde on a l'illusion du mouvement.
On reste à 24 images par seconde en tout cas, là le compte est bon.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Céline Sciamma, qui de Camille, de Courgette ou de Simon est votre préféré? Parce qu'on ne doit pas choisir entre ses enfants, mais on a quand même toujours un petit personnage duquel on se sent peut-être plus proche.
Simon, c'est un peu le personnage de cœur.
Parce que c'est le chef. Hein,
Simon, c'est le chef. Oui, c'est le dur à cuire qui se révèle cœur tendre et c'est finalement un peu le héros bis du film. En tout cas, c'est celui qui fait beaucoup avancer l'action. Et moi, j'aime bien les personnages marginaux. J'aime beaucoup les personnages secondaires et à écrire et puis à vivre. Camille, elle en a vu des choses pas faciles, mais c'est aussi une dure à cuire. Elle est pas, c'est pas une victime. Hein. Elle veut pas être considérée comme telle, en tout cas.
Non, non, c'est un personnage de petite fille moderne d'aujourd'hui qui ne s'en laisse pas compter et qui est effectivement assez leader.
Et Courgette, c'est notre héros, un poète, un enfant fragile. Comment vous le décririez, Courgette ?
Courgette, c'est un tendre. Et c'est un. Il a une. Il ne perd jamais sa lumière. Et c'est un. Surtout, c'est tous ces enfants, ce qu'on peut dire d'eux, c'est leur dénominateur commun, c'est qu'ils sont extrêmement intelligents. Et effectivement, ils peuvent sembler poétiques dans leur regard sur le monde, mais ils sont surtout articulés, ce qui est pas mal pour des marionnettes. Mais c'est des. C'est des enfants qui. C'est des enfants intelligents qui réfléchissent et qui voient l'opportunité de. L'opportunité de la vie en permanence, quoi. Et que, voilà, les séparations sont toujours l'occasion de rencontres.
Claude Barras, des marionnettes animées, un clin d'œil forcément au maître de l'animation tchèque, Jiří Trnka.
Ce petit monde naît chaque jour dans les studios de Prague. Là, sous l'impulsion de Trnka, se crée, silhouette par silhouette, et visage par visage, les personnages du drame héroïque ou burlesque que suit pas à pas son auteur. Patient travail, lent et presque fastidieux, chaque image, et il y en a 24 à la seconde, nécessite une modification infinitésimale de l'attitude du personnage. Heureux quand il n'y en a qu'un seul en scène. Et voici que sur l'écran, s'animera tout à l'heure la figurine légendaire qui mènera petits et grands au pays des songes.
Jiří Trnka.
Grande source d'inspiration. Effectivement, il a des personnages très très simples, très colorés. C'est des marionnettes en bois. J'ai eu l'occasion il y a 4 ans de voir une exposition de ces marionnettes. Ça m'a beaucoup beaucoup impressionné et ça m'a beaucoup inspiré aussi pour... ces marionnettes-là, la simplicité.
Peintre, illustrateur, marionnettiste, là c'était en 59 au Louvre. Vos petits héros, Claude Barras, ressemble aussi beaucoup aux peintures de Margaret Keane, cette peintre américaine qui peignait toujours des enfants avec des grands yeux ronds, réhabilité récemment par le film Big Eyes de Tim Burton. Et c'est pas un hasard parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce film avec les yeux, par le regard de ces enfants.
Oui, c'est un film qui est assez lent dans le découpage aussi. On reste beaucoup sur les personnages, on les filme en gros plan et on est avec eux, leurs émotions. C'est un peu l'idée du film, ouais. Les émotions qui passent à travers les yeux, donc des très grands yeux. Ouais.
Ça se voit dans ses yeux, ça se voit qu'elle a tout vu, dit d'ailleurs Courgette à Simon au sujet de Camille quand il apprend que si elle est là, c'est parce qu'elle a vu son père tuer sa mère. Hein. C'était dans ce sens-là, Céline Sciamma ?
Oui.
Ouais.
Ça arrive dans ce sens-là parfois.
Ces enfants blessés, ils ont effectivement vu des choses assez terribles. Courgette, c'est un petit garçon qui, après 5 minutes de film, se retrouve avec un père cerf-volant et une canette de bière qui lui tient lieu de mère. Il est alors placé dans un foyer où il peine au début à sociabiliser, hein, comme on dit, muré plutôt dans sa douleur ou dans son silence. Et petit à petit, il va se faire des amis, il va tomber amoureux et il va réapprendre la vie. Je vais devoir t'emmener dans un endroit où il y a d'autres enfants comme toi, lui dit Raymond, le flic qui va le placer dans ce foyer. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces enfants, Céline Sciamma ?
Ils vivent ce paradoxe qui est, alors même qu'ils débutent leur vie, elle est déjà brisée. Donc c'est toute la puissance émotionnelle de ces petits personnages qui vivent une enfance contrariée. Et en même temps, c'est aussi tout le ressort qu'ils ont de devoir déjà se réinventer, alors même qu'ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc leur point commun, c'est leur souffrance et puis c'est aussi leur capacité à la résilience collectivement.
En faisant groupe, en faisant corps, quelque part.
Hein. Oui.
C'est un film quand même assez à charge, Céline Sciamma, Claude Barras, contre les adultes de cette enfance maltraitée, des parents irresponsables. À charge aussi quand même contre la société, avec notamment la mère d'une des enfants dans ce foyer, mère africaine qui a été expulsée. Grosso modo, la famille traditionnelle, biologique, en prend quand même un sacré coup. Et ces enfants vont se reconstruire une famille à travers ses autres camarades du foyer.
foyer, mais aussi à travers les adultes qui sont présents là, la directrice du foyer, le flic, le commissaire, Raymond, qui va tendre une main à Courgette et puis finir par d'ailleurs par l'adopter, à travers les éducateurs aussi qui sont formidables. Dans une des dernières scènes du film, les enfants entourent le berceau du bébé qu'a eu Rosie avec l'éducateur et lui demandent « Est-ce qu'il va vivre toujours ici ?»« Sauf si tu l'abandonnes », répondent les enfants. « Mais je vais pas l'abandonner », dit Rosie. Et là, il y a toute une longue série de postulats, de propositions. Tu l'abandonnerais même pas s'il fait pipi au lit, même pas s'il est punk, même pas s'il a un long cou comme une girafe. On sent quand même cette défiance, Claude Barras, envers les adultes, hein, qui alimente ce sentiment d'abandon.
Oui, c'est sûr, je pense à un film qui se passe dans un foyer. Et forcément, on a un peu le résultat de tout ce qui peut aller mal dans une société quand on regarde ces enfants qui doivent se reconstruire et repartir vers la vie. Heureusement, il y a ces lieux et il y a le regard bienveillant des gens qui essayent de les accompagner, de les aider. Et c'est là que naît la résilience, aussi sous le regard bienveillant des adultes.
Qu'est-ce que vous vouliez transmettre? Qu'est-ce que vous cherchiez à raconter l'un et l'autre avec cette histoire, Céline Sciamma?
Il n'y a pas l'idée d'un message. D'ailleurs, on peut dire que le film est un conte moderne, contemporain, mais il n'y a pas de moralité. On a envie de transmettre un sentiment, avant tout, de transmettre ce trajet émotionnel. Et s'il y a un message, je suis en train de me contredire parce que j'ai dit qu'il n'y en avait pas, mais enfin, c'est pas grave.
Il n'y a pas de morale.
Si, voilà. C'est le film, il est engagé. Voilà. Il fait proposition, justement. Il dit, qu'est-ce que c'est faire famille aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le collectif et effectivement dynamite un peu la question de la famille traditionnelle, mais pas parce qu'il est futuriste, parce qu'il prend acte de nos familles et de nos liens au présent. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle très fort aux enfants qui l'ont vu.
Il y a des choses très belles et très positives dans ce film, mais il y a quand même le début est très difficile. On peut le montrer à partir de quel âge pour vous, Claude Barras?
Alors en Suisse, on a une commission de censure qui a arbitré l'âge à 6 ans.
6 ans.
Moi, je pense qu'à partir de 6-7 ans, effectivement, c'est un film qui... parce qu'il y a des grands moments aussi d'humour, de tendresse. C'est un film avec effectivement un fond social assez difficile, mais qui va vers la lumière et... Voilà, le début, les 15 premières minutes, effectivement, sont assez dures, assez noires. Puis ensuite, le film s'éclaircit et on y rit aussi beaucoup.
En France, il n'y a pas de limite d'âge. On n'a pas
c'est, posé d'interdiction. En France, en fait, c'est chaque cinéma et chaque exploitant qui donne son avis.
Donc c'est quand même un film qui mérite, pour des jeunes enfants, d'être un peu expliqué, encadré. Vous ne trouvez pas dans sa perception? Vous vous êtes demandé comment des enfants de 6 ans, 7 ans verraient le film d'eux-mêmes, sans explication d'adulte autour.
Ah bah bien
Est-ce
sûr,
qu'ils peuvent oui. se le prendre en pleine face, quelque part?
Non, mais on ne s'est demandé que ça, puisqu'on a écrit le film en pensant aux enfants. On n'a pas écrit le film, on a écrit le film en pensant à tous les publics. Et c'est un trajet de récit et de réflexion qui est pensé pour s'adresser aux enfants. Je pense que c'est un film pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir de précautions avant de le voir. Mais par contre, c'est un film qui libère la parole. Hier, on avait une avant-première avec beaucoup de familles et il y a une mère qui est sortie et qui a dit merci et qui a dit on va avoir beaucoup de choses à partager, on va pouvoir parler ensemble. Donc, quand on s'adresse aux enfants, il ne s'agit pas uniquement de leur expliquer les choses, il s'agit d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et je crois que c'est l'endroit où le film, il a une sortie familiale assez rare, assez précieuse, c'est que les enfants et les adultes voient le même film. Voient le même film qui parle du monde dans lequel ils vivent et ils vont échanger.
On pense à Bambi quand même un peu aussi quand on voit le film. Parce
ça
que c'est
commence
vrai que
un peu comme Bambi.
Dès
ouais.
qu'on tue une mère, on pense à Bambi.
Oui, c'est vrai. Et puis ça, c'est des choses qu'on se dit des années plus tard. Bambi, ça m'a traumatisé quand Bambi perd sa mère. Et en même temps, c'est vrai que c'est aussi un film d'animation magnifique. Qui
oui.
est aussi un film, un parcours initiatique.
Ouais. Mais finalement, la perte de la mère ici, elle n'est pas mise en scène de manière trop traumatique, puisqu'on la voit très peu, on l'entend surtout, on l'aperçoit comme quelqu'un de dangereux. Et quand l'accident arrive, c'est presque un soulagement pour nous. On voit bien que Courgette, lui, il est ambigu, il sait pas trop ce qui se passe, mais pour nous, en tout cas, c'est une menace qui s'arrête. Donc c'est pas une mère forcément, c'est pas autant dramatique que Bambi dans ce sens-là.
Comment, quand on est adulte, c'est ce que vous évoquez, on se met justement à hauteur d'enfant pour écrire un scénario comme ça? Vous avez travaillé l'un et l'autre dessus, ce récit. Comment vous arrivez à vous mettre dans la tête des enfants pour essayer de leur parler?
L'idée, c'est de... Enfin, quand on parle à un enfant dans la vie, d'ailleurs, soit on baisse le regard pour s'adresser à lui, soit on s'agenouille pour le regarder dans les yeux. Et je crois que c'est le film qui s'agenouille. Je crois que c'est un film qui s'agenouille pour parler aux enfants. Voilà, une fois que j'ai dit cette métaphore, j'ai peut-être pas dit grand-chose. Mais c'est moins d'essayer d'attraper un air du temps de l'enfance, des expressions. Parce que les gens sont toujours impressionnés par la question de la langue. Mais en réalité, j'ai l'impression que se mettre dans la peau d'un enfant, c'est rentrer dans sa logique. C'est comme d'ailleurs c'est l'endroit où... Et c'est avoir une ambition d'écriture. C'est-à-dire, c'est comme comment se mettre dans la peau d'un méchant, vous voyez. Ou comment se mettre dans la peau d'un homme si on est une femme et qu'on écrit. Enfin, c'est rentrer dans des logiques et c'est avoir un... C'est du travail. Aussi. Mmh. C'est avoir de l'ambition pour ces personnages, de leur donner de la complexité, du fond, des émotions contrastées. C'est considérer que les enfants, c'est pas un petit personnage innocent, ce sont pas des figurines.
Et c'est aussi un film enchanté, c'est ce qu'il faut dire, Claude Barrás, difficile par moments, enchanté par d'autres, parce que c'est un film qui se positionne indirectement contre les déterminismes, qui raconte comment refaire famille par le collectif, par l'adoption aussi. C'est un film où des enfants de 10 ans ont de saines lectures, adossées à un arbre, par exemple Camille lit la métamorphose de Kafka, et ils écoutent tous de la très bonne musique, Les Berruriers Noirs, Krausoneux avec Martine Escher, Claude Barrás, franchement. Et devinez quelle musique Claude Barrás a choisi pour le générique de fin.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui m'entiraille, le palais des autres jours.
Reprise de Noir Désir, interprétée par la Suissesse Sophie Unger, qui signe tout en douceur la bande-son du film. Un mot, Claude Barrás, sur ce choix?
Eh ben, il a démarré avec cette magnifique reprise qui était vraiment en accord avec la fin du film. que je vais pas raconter. Et c'est à partir de là qu'on a pu lui proposer de faire la bande son. On a fait très attention de pas faire de la musique pour enfants ou de pas trop surjouer la musique, mais d'accompagner les sentiments, qu'elles surgissent un petit peu après le début de l'émotion chez le spectateur. Donc c'est, voilà, c'est une partition tout en douceur.
Nos invités, le réalisateur Claude Barras et la scénariste réalisatrice, elle aussi Céline Sciamma, pour Ma vie de courgette, un film d'animation en salle ce mercredi.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
De la naissance des pieuvres à Bande de filles, Céline Sciamma, vous êtes vraiment une cinéaste de ce temps qui se situe avant 20 ans. Comment se mettre à hauteur d'enfant, on l'a évoqué, et comment écrire pour un film d'animation? Qu'est-ce que ça change pour vous?
Alors sur le moment, ça n'a absolument rien changé. Je l'ai écrit comme un film. Par ignorance, sans doute, de comment ça se fabrique. C'était une innocence plutôt qu'une ignorance. Et puis aussi parce que c'était l'ambition du film. On n'était pas non plus dans des mondes féeriques où il fallait comme ça développer un imaginaire particulier. Donc c'était en accord avec le film de l'écrire comme un film. Voilà. Ensuite, avec l'expérience, avec le temps qui a passé en recevant le film comme ça des années après, je constate que le scénario est absolument pas traversé par la vie de la même façon que si c'était un film de live. Et qu'il y a une grande responsabilité à écrire un scénario pour un film d'animation. On peut pas escamoter les choses, on peut pas dire que ce sera. Et du coup, voilà, j'ai perdu mon innocence. Mais
tout va bien.
Mais il est temps.
Vous allez la retrouver.
Oui.
Je sais pas comment, le Barras est dès là.
Non, mais c'est sûr que je pense que le scénario, il est à la fois très réaliste et à la fois très symbolique. On peut y voir autant un conte qu'un film social. Et effectivement, en animation, on ne fait pas de tournage, donc on reste très très proche du scénario, et c'est la responsabilité dont tu parlais. Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de faire autrement que ce que tu as fait, c'était très bien.
Merci.
Dans Ma vie de courgette, Claude Barras, Céline Sciamma, il y a un travail sur les mots qui permettent de donner vie aux marionnettes. Il y a un travail énorme aussi sur les voix, puisque ce sont de vrais enfants et pas des adultes qui prennent des voix d'enfants qui font les dialogues et incarnent les 7 enfants de Ma vie de courgette. Un travail de précision vraiment aussi magnifique sur les images, Claude Barras, les décors intérieurs qui fourmillent de détails, des motifs partout dans les chambres d'enfants, de la couette au plafond, mais aussi les graphiques. Graffiti, ça j'ai adoré, sur les murs extérieurs du
foyer.
C'est
ma nièce qui les a fait.
D'accord, elle a un futur d'artiste de street art qui est totalement assumé, et on est convaincu. Les cactus aussi chez Raymond, les oiseaux, les arbres en fleurs. On va écouter un extrait de Ma vie de courgette pour se replonger dans cet univers.
Bon, c'est bien tout ça. Ça a l'air chouette.
Ouais, c'est chouette.
Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?
Non, ce sera moins bien quand tu reviendras plus.
Tu crois que je viens par obligation?
Je sais pas, c'est ton travail.
Mais non, c'est pas mon travail. Je viens te voir parce que je t'aime bien.
Moi aussi, je t'aime bien.
Ah oh, hé hey
ils aiment pas trop les flics, je crois. Surtout Ahmed, il croit que c'est toi qui as mis son père en prison.
Madame.
Maman !
Mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ? Allez, hop, on se réveille.
Aïe !
Bouge tes fesses, j'ai pas que ça à faire, moi.
Eh ben, elle est aimable comme une porte de prison, celle-là.
C'est un film léger, sombre, poétique et empreint de réalisme, magique parce que gorgé d'émotions et un arc-en-ciel de couleurs, réaliste parce que sans fausses notes, comme dirait Gilles Paris. Simon, le dur au grand cœur, le chef, comme dirait Camille. Simon, il accueille Courgette avec un bienvenu en prison, la patate. Mais ce foyer, vous l'avez pas pensé, Claude Barras, comme un lieu de privation de la vraie vie, hein, de la famille, plutôt comme un lieu de reconstruction avec Céline Sciamma. Dans le générique de fin, d'ailleurs, vous citez un foyer, celui des écureuils dorés. L'écriture du film a été nourrie pour l'un comme pour l'autre par des vraies rencontres, un travail de terrain.
Alors l'écriture du livre, Gilles Paris est passé un an au foyer en écrivant son livre. Et moi j'ai fait, j'ai des amis donc éducateurs avec qui j'ai travaillé sur le scénario un petit peu, sur des hypothèses. Puis j'ai fait un stage de 3 semaines au foyer des Écureuils Dorés. Je leur ai piqué l'idée de la météo des enfants qui vient directement de ce foyer.
La météo de leurs humeurs, hein. Soleil, pluie, nuages, colère, l'animation, est-ce que ça permet ça, Claude Barrasse, d'offrir une réalité décalée plutôt qu'une reproduction fidèle du réel, malgré tout?
Alors je pense que ça amène une certaine douceur, ça amène aussi beaucoup d'identification au personnage. Je pense qu'on s'identifie peut-être plus facilement à des personnages d'animation très stylisé qu'à des enfants. Ça amène, je pense, à la fois de la distance et à la fois de l'identification. C'est un peu paradoxal.
Ma vie de courgette, c'est quand même une production 100% européenne et artisanale. Aucune étape de fabrication n'a été délocalisée. Ça se fait beaucoup dans l'animation et c'est compréhensible pour les coûts.
Non, là,
notamment
comme c'est,
en Corée, en Afrique.
Comme c'est vraiment du bricolage, hein. C'était un énorme atelier de bricolage qui s'est fait entre Rhône-Alpes et la Suisse. Donc non, ça a été fait 100%.
100%
ici.
Européen. Combien de temps de tournage, de réalisation?
Alors il y a eu 10 mois de tournage. Il faut savoir que chaque animateur faisait 3-4 secondes par jour et on en avait 10 en parallèle pour faire 30 secondes par jour et ça nous a fait 10 mois de tournage.
Et alors, en octobre à Paris, on fête justement le cinéma d'animation avec une 15e édition cette année. À Paris, dans 10 jours, il y aura une table ronde 104 où les participants s'interrogeront sur l'impossible équation, point d'interrogation, entre marché et liberté de création pour les longs métrages d'animation français en salle. Rien n'est impossible, répondriez-vous sûrement, Claude Barrasse, pour preuve avec Ma vie de courgette. Mais on l'entend, le parcours n'a pas été pour autant facile. Un film à partir de 6 ans à voir, nous disent les Suisses, comme dans tous les grands films d'animation. Il faut quand même vraiment noter qu'il y a toujours 2 lectures possibles, une pour les enfants, une pour les adultes. La preuve par l'anecdote, quand le flic Raymond demande à Courgette où est son père, il lui montre Courgette, son cerf-volant, avec son père en super-héros d'un côté et une poule de l'autre. Ma mère disait toujours que mon père aimait trop les poules. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être passés ici. Est-ce que je peux adopter Courgette? Non, il va repartir au musée.
Eh ben, il a un papa, mais il lui manque une maman, donc...
Je peux lancer une demande d'adoption. Merci, merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Venu dans la grande table. À suivre dans la deuxième partie de l'émission Après le journal, Antoine Garapon pour une démocratie sous stress. Notre confrère magistrat sera avec nous à partir de 12h55.